d'abord marché par l'esprit. En conséquence, il n'accomplirait point la convoitise de la chair. Il n'est pas écrit non plus marché par l'esprit et la chair ne combattra point. Et que, au contraire, la chair convoite. Il dit marché par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. La chair convoite, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas ? Elle est comme ces oiseaux qui volent sur un dessus dans le ciel, dont on veut empêcher de voler, et qu'on veut empêcher de se poser sur sa tête. Alors, marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Mais souvent, je pense que souvent, surtout quand on est jeune, on est très exercé parce que des mauvaises pensées viennent au cœur, des mauvaises pensées viennent à l'esprit. On voudrait les empêcher de les supprimer. Mais la chair combatte. La chair combatte. Et il en est ainsi pour tous. Mais marcher par l'esprit. L'esprit va vous occuper du Seigneur. Et ces choses-là, quand vous ne les accomplirez pas, ces choses-là, elles disparaîtront aussitôt qu'elles apparaîtront dans l'esprit, elles disparaîtront parce que l'esprit ne vous occupe pas du Seigneur. L'esprit prend de ce qui est à Christ et il est transmis, il est chargé de glorifier le Seigneur. Alors il va nous occuper du Seigneur et ces choses qui viennent de nous-mêmes, qui sont de la chair, disparaîtront sans porter, sans pouvoir accomplir leurs œuvres.
On a dit que si la coupe de nos cœurs était remplie de Christ, Satan ne pouvait rien verser. C'est justement lorsque cette vile piété manque que la tendance naturelle de nos cœurs est de remplacer la piété par des ordonnances pour soulager notre conscience naturelle chargée. Et voilà le vrai problème souvent dans les assemblées. On s'attache aux principes extérieurs et on oublie que dans les gens de faiblesse c'est le déclin que vous prêchez la grâce, vous prêchez Christ. Il faut que les affections des cœurs soient renouvelées quant à Christ. C'est ainsi que nos cœurs sont pleins, remplis de lui. Naturellement, peut-être même à notre insu, nous porterons ce fruit de l'esprit. L'opposition entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit, les œuvres de la chair sont multiples, abominables, le fruit de l'esprit est unique. Il a différentes facettes, c'est un fruit. C'est un fruit parce que c'est le résultat d'un arbre qui porte quelque chose pour Dieu, une nouvelle création. Donc les œuvres de la chair, c'est un ouvrier, un esclave qui est vendu à l'autre. Voilà ce que nous avons pratiquement à ne pas accomplir. Ces œuvres, les accomplir pour Satan, pour la puissance du mal qui reste en nous. Au contraire, à nous annuler pratiquement la puissance pour que le fruit de l'esprit soit produit pour la gloire de Dieu.
Verset 2 du chapitre 94.
Pensées mauvaises. C'est correct. Mais la parole nous donne les œuvres de la chair qui sont manifestes. Et alors, c'est le fruit des déviations qui viennent, des déviations graves, qui découvrent de ce pouvoir de transmettre la vie que Dieu a confié à l'homme, pour transmettre consciemment la vie, les déviations, les dépravations, qui évidemment sont mentionnées en premier lieu. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a l'idolâtrie, la magie. Mais l'idolâtrie, si l'apôtre Jean dit « gardez que des idoles », il avait peut-être bien vu l'idolâtrie qui était courante, encore dans l'Empire romain. Mais pour nous, ce n'est pas actuel dans le sens d'adorer des idoles de pierre ou de métal. Ce n'est peut-être encore pour nous ouvrir de divers pays africains ou autres. Mais il y a l'idolâtrie de ce qui prend la place du Seigneur. La magie ou la sorcellerie. Oh, il y a encore des gens superstitieux, même parmi nous. C'est une œuvre de la chair. Le Seigneur est là pour nous garder et pour nous montrer la réalité des choses. Mais alors ensuite viennent les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les envies, les choses semblables à ça. Ah, c'est les œuvres de la chair. C'est ce que la chair désire produire. Ah, que dans une famille, il y ait des querelles, que dans une assemblée, il y ait des tensions, et des... on ne se supporte pas l'un l'autre, et alors cela conduit à des pensées disparates, des divisions, ça peut aller jusqu'à des sectes ailleurs, mais ici aussi, les envies, désirer ce que Dieu n'a pas donné, la jalousie, tout ça c'est les œuvres de la chair. Et alors, si vous êtes conduit par l'esprit, vous ne serez pas sous loi. C'est pas seulement de dire tu ne te rêveras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne te laisseras pas aller à des excès, mais l'esprit convoite contre la chair pour que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Alors ça dépasse tout beaucoup le cadre des pensées, qui sont une mauvaise source. Mais il y a dans la vie pratique tout ce qui est œuvre de la chair. Et c'est de cela qu'on a besoin que l'esprit nous garde.
Afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Par conséquent, il n'y a pas de doute, ce que je veux dans la chair, ce sont des choses qui sont là énumérées. Je ne peux pas corriger cela. Il y a peut-être des différences de caractère, de comportement, mais le fond c'est cela. Je veux, je souhaite, je voudrais accomplir des choses qui sont là énumérées, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Nous savons bien que chaque nature se manifeste par ce qu'elle est en elle-même. Et nous participons de la nature de celui qui engendre. Il est bien évident qu'ayant été engendré de Dieu, la vie nouvelle en moi désire des choses qui sont agréables à Dieu, selon la pensée de Dieu. Tandis que la chair en moi désire, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez, la chair en moi désire pratiquer ce qui répond à ses instincts, ce qui répond à ses tendances. L'apôtre Jean nous montre bien qu'il n'y a pas d'analogie possible, pas d'association possible entre pratiquer d'une part la justice et d'autre part pratiquer le péché. Pratiquer la justice, ce qui est agréable à Dieu, ce qui répond à la pensée de Dieu, ce qui est le naturel de la nouvelle nature que je possède, ou bien pratiquer le péché, une marche dans le péché. Mais ce que je veux, selon la nature, un ami qui est en moi, c'est faire cela. Mais, nous l'avons assez entendu, la vie nouvelle en moi, dont l'Esprit Saint est la puissance, elle a la liberté de se manifester par les fruits que nous avons ici devant nous. Tandis que pour la chair, ce sont des œuvres. Il n'y a pas de fruits dans la chair. Il y a seulement des œuvres qui la traduisent, qui la manifestent selon le caractère, l'éducation, selon la tendance naturelle à chacun. Mais le fond est le même. Ce qui est chair ne peut être changé. Le léopard ne peut pas enlever ses taches. L'éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Ce qui est cher, ne peut pas être changé. L'éducation, évidemment, apporte quelques modifications extérieures, c'est bien entendu, mais pour Dieu, le fond de la nature de l'homme, il est le même pour tous. Il n'y a pas de différence. Nul n'atteint à la gloire de Dieu. Et il dira, c'est une leçon qu'il faut apprendre, et plus tôt on l'apprendra, mieux cela vaudra pour la vie, pour l'équilibre du croyant, de sa joie, de sa communion. Je sais qu'en ma chair, il n'habite point de bien. Parce qu'elle peut pratiquer les choses qui sont là énumérées, si affreuses qu'elles soient. Chers serviteurs de Dieu, nous n'avons pas la crainte de rappeler cette expression. Elle n'est pas très populaire, sans doute. Elle n'est pas peut-être élégante, mais elle est complètement, elle est entièrement vraie. C'est de ce cher devancier, J.N.D., qui dit « Qu'est-ce que le fond de mon cœur ?» Peut-être quelques-uns de nous ont lu ce qu'il répond. « Qu'est-ce que le fond de mon cœur ?» Pour un homme d'une telle noblesse, une telle élévation de pensée, vous pensez bien que ce que nous allons citer a une résonance particulière. Qu'est-ce que le fond de mon cœur? Le fond de mon cœur, dit-il, c'est un dégoût.
Nous savons ce que c'est que le cœur d'un homme étonné. Nous ne pourrons jamais pénétrer ce que c'est que le cœur d'un malfaiteur. Il est remarquable de voir que les mêmes expressions sont employées par l'apôtre en Galates 5 et en Romains 7, que notre frère vient d'en citer une. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire qu'en ma chair, je n'habite point de bien. Mais en fait, l'état moral dans lequel le croyant est envisagé en Romains 7 et en Galates 5 est différent. En Romains 7, le croyant est encore sous la servitude de la loi. Il va libérer de cette servitude, elle n'est pas véritablement scellée de l'esprit comme étant dans l'état chrétien. La chose remarquable, c'est qu'il n'a pas été selon Dieu de nous délivrer entièrement, justement, de cette puissance qui est en nous-mêmes jusqu'à la fin. Dieu a voulu que ce conflit subsiste. C'est à nous d'être vigilants. Et il nous a donné, parce qu'il nous aime, tous les moyens, non seulement de résister, mais de remporter la victoire et de faire quelque chose pour lui, pour lui plaire, dès maintenant sur la terre. Nous sommes encore envisagés comme ce fruit, donc cet arbre qui porte un fruit, comme étant planté sur la terre. Expression qu'on rencontre souvent, Israël était la vigne de Dieu. Célestia, ça a été une vigne de peu de hauteur, Ézéchiel 17. Le cèpe a été planté, sorti d'Égypte et a été planté. Christ remplace, lorsqu'il est venu sur la terre, la vigne d'Israël, le figuier du peuple d'Israël, qui lui-même ne pouvait pas porter de fruits. Maintenant, sur la terre, Christ est le vrai cèpe, la vraie plante. Et nous sommes ses branches, liées au cèpe, invitées à porter du fruit, beaucoup de fruits, plus de fruits, un fruit qui demeure. Les quatre expressions que nous trouvons en Jean 15. Il est combien important de souligner, c'est pour la terre que ces choses sont écrites. C'est maintenant que le fruit doit être produit. Dans la gloire, nous n'aurons plus besoin ni de vigilance, ni de souvenir de nos misères, pour nous amener à partager la joie de tous et la joie du Maître. C'est sur la terre maintenant que le Seigneur nous invite à souffrir, à lutter, à remporter la victoire pour qu'un fruit soit produit pour sa gloire. Et ceci fait certainement partie, cette parure de l'Église, qui sera sa gloire, celle de Christ, au moment où le Seigneur se présentera son épouse à lui-même. Les actes justes, les faits justes des saints, le fin d'un éclatant des purs, Apocalypse 19, c'est pour chacun de nous quelque chose de ce fruit de l'Esprit.
Dans le verset cité dans Jean 15, nous avons bien l'expression du verset 5, « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. font le fruit, même l'arbre ne fait rien. Il ne fait que transmettre la sève, il prend sa source dans la terre, l'eau de la terre, on pense à la parole de Dieu, enracinée en Christ. Et l'arbre est simplement un canal. Et au fond, on sait si un arbre a des racines tournées vers le courant, vers Christ, que si il y a des fruits. Si on passe dans un verger l'été, eh bien, il n'y a pas de bruit. Mais si on passe à plusieurs périodes de l'été, on verra des fruits qui vont mûrir sans bruit, sans que rien ne se fasse. Et au fond, n'est-ce pas notre communion avec le Seigneur, si nous demeurons en lui, progressivement, les fruits vont mûrir. Ce fruit de l'Esprit qui nous est décrit et que nous allons méditer un moment maintenant, va justement, sans effort de nous-mêmes, être la manifestation extérieure que nous avons, la vie de Dieu en nous. Mais pour cela, celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là, porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire.
Il y a deux passages en rapport avec ce fruit de l'arbre près du pauvre. Chacun d'entre nous connaît. Psaume 1 et Jérémie 17. Psaume 1 bénisse l'homme, bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Il ne tient pas dans le chemin des pécheurs, il ne s'assied pas au siège des moqueurs. Et qui a son plaisir en la loi de l'Éternel. Et médite dans sa loi jour et nuit, et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. L'un des deux secrets pour porter le fruit, c'est de rester attaché à la parole. C'est justement cette action de la parole et de l'esprit qui nous permettra de distinguer entre les œuvres de la chair et fruit de l'esprit. Et l'autre côté, c'est dans Jérémie 17, la soumission est faite entre deux états. Verset 5, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son pain. Verset 7, Jérémie 17, 7, bénis l'homme qui se confie en l'Éternel et qui l'Éternel a la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Il étendra ses racines vers le courant et ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra, mais sa feuille sera toujours verte. Et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas. Et ne cessera de porter du fruit. L'autre secret, c'est la foi, une confiance en Dieu, une confiance inaltérable, qui a caractérisé ces deux hommes, Josué et Caleb, pour conquérir le pays, chef et consommateur de la foi, comme Christ a été en perfection.
Avec l'image du bois, du sarment, avec aussi peut-être ajouter une petite explication pour autant qu'on peut la donner clairement. Dans l'évangile selon Jean, le Seigneur dit, en parlant du Saint-Esprit, évidemment, en ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit sera venu, nous citons Jean 14, verset 20, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Nous mettons ce passage en parallèle avec le passage cité tout à l'heure par notre frère Calam, celui qui demeure en moi, lui donc, qui a une position en moi, qui est croyant, qui est chrétien, qui est donc un enfant de Dieu, il demeure en moi. Mais alors, pour porter du fruit, et moi en lui. Dans le premier passage que nous avons lu, on a souvent dit, nous pouvons dire, vous en moi, c'est l'épître aux Éphésiens, nous sommes en Christ devant Dieu, et moi en vous. C'est l'épître aux Colossiens, c'est la vie de Christ en nous, la vie de Christ ressuscité en nous. Nous n'avons même pas la mention de l'Esprit Saint dans l'épître aux Colossiens, sauf une fois, mais ce n'est pas dans le même sens général. Vous en moi devant Dieu, épître aux Éphésiens, moi en vous, épître aux Colossiens, et vous voyez, s'il en est ainsi, moi en lui, moi en vous, vous allez porter du fruit. Donc, la question pratique de la communion, de la marche avec lui. Réalisation pratique, sensible, effective de la communion avec lui. non pas seulement vous en moi, mais moi en vous, alors vous allez porter du fruit. Et l'exemple que nous aimions rappeler, c'est dans le prophète Ézéchiel au chapitre 15. Le bois de la vigne. Le Seigneur en fait une parabole, évidemment c'est une application immédiate à Israël. Le bois de la vigne, nous savons bien que c'est l'image d'Israël, et là, cette vigne n'avait porté aucun fruit, elle allait être brûlée. Nebuchadnezzar était déjà en marche avec ses troupes pour venir faire le sac de la vigne, brûler le temple. Alors nous disons, fils d'homme, Ézéchiel 15, verset 2, le bois de la vigne, que vaut-il plus que tout autre bois? Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt. On ne peut en rien en faire. Le reste de la présentation du prophète montre qu'on ne peut rien faire de ce bois. Aucun mobilier, aucune pièce de quelconque qui ait un peu de valeur. Le bois de la vigne, c'est vraiment un bois qui n'a en lui-même aucune valeur. Mais lorsque la serre, la vie de Dieu, le traverse, alors il porte un fruit extrêmement précieux, la joie pour Dieu, la joie pour le croyant. Sauf que nous comprenons bien, par l'exemple de Jean 15, ce que nous trouvons dans Ézéchiel 15, des enseignements parallèles qui se superposent, le sarment, s'il n'est pas en Christ, eh bien, on ne peut rien attendre de lui. S'il n'est pas attaché au cep, il ne peut rien produire. Mais s'il est attaché au cep, ce bois de la vigne, sans valeur en lui-même, va alors porter beaucoup de fruits, parce que, attaché au cep, la sève le traverse, la vie de Dieu, moi en vous, et voilà le secret pour produire du fruit, le raisin, symbole de la joie pour le cœur de Dieu et pour le croyant, dans la communion réalisée pratiquement avec le Seigneur.
Il faut peut-être encore se poser la question, pourquoi porter du fruit? Quel est le but du fruit? À quoi sert le fruit? Est-ce qu'on ne touche pas là le secret de la vie, de la propagation de la vie? Quel est le but du fruit? Qu'est-ce qu'un fruit? Un fruit, sans doute, on va regarder. Mais nous ne sommes pas amenés à porter du fruit dans le but de regarder ces fruits. Ce n'est pas une fin en soi. Le fruit a pour but d'être non pas mis sur un étalage non plus. Et donc pour but d'être croqué, d'être mangé. Pourquoi? Parce que c'est par ce moyen-là que la vie peut à nouveau être propagée. Parce que dans le fruit, il y a quoi? Il y a la semence. Dans la semence, il y a le germe, un principe de vie. C'est ainsi que je pense que nous sommes amenés à porter du fruit. Donc c'est ainsi que Dieu veut que nous transmettions la vie, que nous faisions connaître l'amour à ceux qui, autour de nous, ont soif et faim d'amour, de joie, de paix, comme ils sont nombreux. Nous allons sortir tout à l'heure et nous allons rencontrer combien ont soif et faim d'amour. Bien, le fruit, donc, c'est bien pour propager la vie, transmettre la vie à d'autres. Il y a cette semence, ce principe de vie qui est Christ. C'est pas pour le garder pour nous-mêmes, c'est pour le communiquer à d'autres.
Ce fruit va montrer le Seigneur. Dans cet épître, on voit au chapitre 4 que l'apôtre Paul travaillait au verset 19 jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Et le fruit de l'Esprit va manifester des caractères du Seigneur. Ça a été souligné tout à l'heure dans l'introduction. Et quand on regarde ces différentes facettes du fruit de l'Esprit, on voit évidemment le Seigneur. On peut peut-être le partager en trois parties, ces différentes facettes. L'amour, la joie, la paix. C'est au fond ce que la communion avec le Seigneur va produire dans mon cœur, dans le cœur de celui qui marche par l'Esprit, qui est conduit par l'Esprit. Et cela correspond peut-être à ce qu'il y a dans l'Épître à Tite, quand il est dit que nous devons nous comporter dans le présent siècle pieusement. Le fruit de nos relations avec le Seigneur dans la piété, qui donnera l'amour, la joie, la paix. Ensuite, la deuxième partie, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur. Ceci va se traduire certainement dans nos relations avec les autres. Et dans l'épître à Tite, si on continue ce parallèle, il nous a dit de marcher justement. Cela va se traduire donc dans nos relations avec les autres, et ces relations seront marquées par la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur. Nous ressemblerons au Seigneur en cela. Et puis dans l'épître à Tite, il est dit aussi de marcher sobrement, et cela se traduira par la tempérance, le dernier point de notre chapitre.
L'amour, la joie, la paix, c'est premièrement la vie intérieure. L'amour vient du cœur. La joie, d'abord intérieure, c'est pas dans les circonstances. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La paix est intérieure. Ça nous ramène à Jean 14 et 17. Le Seigneur dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit accomplie. Et alors, à la fin de sa prière, s'adressant au Père, tu les as aimés. Il y a deux fois l'expression, n'est-ce pas ? Mais la fin de l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Je vous donne la paix, ma joie soit en vous, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est une source intérieure, ça rappelle les racines de l'âme. Si l'arbre n'a pas des racines étendues vers le courant, il ne prospère pas, il n'a pas de fruit. Dans l'année de la sécheresse, il ne cessera de porter du fruit. Il y a des sécheresses extérieures, il y a des épreuves, il y a des temps difficiles. Il y a des temps où il est difficile peut-être de se réjouir, mais s'il y a la vie profonde de votre Seigneur, si les racines vont à cette source d'amour, de joie, de paix, de rendement. Et on connaît bien des frères et sœurs éprouvés, passant vraiment par la sécheresse, qui quand même manifeste le fruit d'esprit. Et le Seigneur montre la puissance de son esprit pour produire cela dans la vie des siens. Alors si la source intérieure est produite par l'esprit, il y a toutes ces relations vis-à-vis l'un des autres, vis-à-vis de l'offrir, la longanimité, la longue patience, le mot littéralement veut dire le long souffle. On persévère malgré les obstacles dans la patience. La longue amitié, la vie de Dieu, cela est dit, les croyants, cela est dit du Seigneur, la bienveillance, la bonté, bienveillance, l'amour n'implique pas le mal. Alors, frère, viens, vous, puis diable, tu sais, celui-là, je crois bien que, non, l'amour n'implique pas le mal. Bienveillance, la bonté qui se manifeste dans les actes. On peut dire bien des choses là-dessus. La fidélité, on nous dit que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui est fidèle, on peut compter sur lui. Et l'esprit produit cela. Quelqu'un, on peut compter, qui n'est pas le Seigneur, on peut compter que ce qu'on va confier, il sera employé comme il convient. Parce qu'il a reçu le travail, fidélité. Douceur, on nous dit que la douceur ici, c'est de ne pas être susceptible, de ne pas s'achoper. C'est pas simplement une sorte de façon d'être aimable avec les autres. Mais ici, ce serait de ne pas se vexer. Ah, il m'a dit ça. Alors, je suis très content. Ne pas être susceptible. Et ça, c'est très, très important. Alors le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Eh bien, on a dit ça, je passe par-dessus. Je regarde le Seigneur. Le Seigneur me connaît, il sait ce qu'on est, peut-être que j'ai à apprendre quelque chose, ce qu'on a dit de moi. Mais enfin, je dois venir au Seigneur. Et au finir, donc, la tempérance, c'est-à-dire le contrôle de soi. Cette discipline personnelle, le contrôle de soi qui ne se laisse pas aller, qui n'est pas indifférent, qui se laisse vivre, mais qui prend mon désir personnel. Ça ne nous est pas tellement naturel, mais on a besoin aussi de cette tempérance, quand même dans sa vie.
Le frère vient de dire, comprendre le caractère de ces esprits est en fait une conséquence du don que le Seigneur nous en a fait dans Jean 14, Jean 15 et Jean 17. Le Seigneur, dans ces quatre chapitres, ajoute une autre chose, c'est la gloire. Et chose remarquable, cette gloire n'est pas mentionnée ici. Pourquoi? Parce que le fruit, il est pour la terre. Il est formé pour Christ pendant le temps que nous sommes encore ici-bas. Mais le Seigneur a rendu quelque chose pour nous, c'est la gloire. Les deux raisons sont données par Christ à son Père pour nous avoir avec lui dans la maison de son Père, de l'éviter la gloire des enfants. La première, c'est Jean 17, 22. La gloire que tu m'as donnée, moi je t'en ai donnée. C'est la quatrième chose que le Seigneur nous donne. Après, c'est trois fois l'esprit de Dieu. Paix, joie, amour. La gloire communiquée, c'est celle que Christ est acquise par l'œuvre de la croix. La gloire du Fils de l'homme. Qu'il nous communique, qu'il nous donne. La deuxième raison pour laquelle l'Église doit être dans le ciel, c'est pour contempler la gloire éternelle du Fils de Dieu. En rapport avec la bonté, nous avons eu la peu de temps de partir notre frère, M. Gilbert. Le passage que nous avons cité sur sa tombe, ce qui attire l'homme en homme, c'est sa bonté. Voilà ce qu'il nous des hommes de bonté. Qui est de plus en plus rare dans les assemblées. Il n'y a rien qui puisse briser le cœur que la grâce de Dieu. Il n'y a rien qui puisse répondre à toutes les douleurs, à toutes les souffrances, à toutes les peines dans la vie des chrétiens et des assemblées, si ce n'est cette bonté selon Dieu. Voilà ce que David avait. Et c'est en David nous trouvons un merveilleux type de Christ. J'userai envers lui d'une bonté de Dieu. David a été terriblement dur quelquefois quand il a été remercié par la séduction de son péché. Il a fait passer ses ennemis par des hertons, il les a mis dans les fours à briques. Il n'est guère une image du Christ. Mais, dans ces bons moments, qui ont été l'essentiel de sa vie, c'est la bonté de Dieu dont il a manifesté le caractère. Voilà ce que nous avons à essayer de mettre en pratique dans la vie des assemblées. La tempérance aussi, pour terminer ce que notre frère disait, c'est d'abord le contrôle de soi-même, c'est qu'il faut que la pensée du péché ne soit pas admise dans le cœur. Dès que nous admettons la possibilité même que le péché intervienne dans nos voies, la chute est en vue. C'est un contrôle de soi-même permanent, constant. La sobriété en toutes choses. Non seulement dans les choses de la vie matérielle, dans les choses de la vie quotidienne, dans le corps. Une sobriété en rapport avec les excès dans le manger les boire, qui sont aussi communs dans ce monde. Mais également, ne pas vouloir faire prévaloir notre propre jugement des choses. C'est ce qui disqualifiait un ancien ou un serviteur, c'était justement d'être adonné à son sens. C'est de vouloir absolument insister sur son propre point de vue. C'est tout à fait l'inverse de la douceur. La douceur est celui qui n'insiste pas sur ses droits. Moïse s'est mis en colère pour personne, parce que la gloire de Dieu était en jeu, et pourtant c'était un homme qui était le plus doux. Il avait une grande douceur, une douceur de Dieu.
Moïse était enhardi par la révélation que Dieu lui donne de lui-même pour l'aider dans la tâche si difficile qui était devant lui. Alors Moïse dit, Éternel, fais-moi voir, je te prie, ta gloire. L'Éternel répond, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Et quelqu'un a dit, voilà la partie essentielle. La partie la plus élevée de la gloire de Dieu. Je ferai passer toute ma bonté devant toi. L'Éternel va crier son nom en disant l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, grand en bonté. En relation avec les fruits, on peut dire beaucoup de choses sans doute. Nous nous souvenons que le souverain sacrificateur, avec ses vêtements pour gloire et pour ornement, est un type si beau du Seigneur Jésus. Et au bas de la robe toute de bleu du souverain sacrificateur, de l'homme Christ Jésus qui est venu du ciel, de la part du Père, au bas de cette robe, il y avait des grenades et des clochettes. Une grenade, un fruit qui en contient d'autres. Que de fruits attachés au bas de la robe du Seigneur Jésus. Et ensuite des clochettes. Et Luc va nous donner l'équivalent des grenades et des clochettes, en nous racontant dans le second traité qu'il écrit toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner, tous les fruits portés par le Seigneur pour la gloire de Dieu, le ciel s'ouvrant sur lui pour déclarer tout le plaisir que Dieu trouvait en lui. Toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner, il n'y a rien à gommer, il n'y a rien à laisser de côté comme il en est pour l'histoire des hommes. Dès le commencement de sa carrière, c'est le parfum qui monte jusqu'au trône de Dieu, toutes les choses qu'il commença de faire et d'enseigner. Moïse est un très grand prophète, il ne s'en est plus levé de semblable en Israël. Mais Étienne, en parlant de lui, dira qu'il était un prophète puissant. Comment? En parole et en œuvre. Pour le Seigneur, les choses qu'il commença de faire et d'enseigner, voilà le parfait modèle. Moïse, aussi grand qu'il fut, toutes les choses que Moïse a enseignées, un prophète puissant, en parole et en œuvre. Et les deux disciples d'Emmaüs disent au Seigneur, mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem. Tu ne connais pas la cause de notre chagrin si profond. Ils ont crucifié Jésus qui était un prophète puissant. Ils vont souligner aussi la chose puissante en œuvre et en parole. C'est le parfait modèle pour nous. Nous savons bien que les clochettes se font peut-être davantage entendre que la cueillette de fruits. Mais le Seigneur veut nous encourager. Dans le Cantique des Cantiques, il y a de belles expressions et nous lisons une marque de sa condescendance. Le Seigneur dit, je suis descendu au jardin des noisettes. Un fruit qui n'est pas d'une valeur exceptionnelle, un fruit pour l'homme peut-être insignifiant. Mais le Seigneur ne le méconnaît pas. Je suis descendu, dit-il, verset 11 du chapitre 6, au jardin des noisettes, pour voir la verdure de la vallée, pour constater ce qui est agréable à son cœur, si insignifiant que soit la chose. Encourageons-nous. Nous avons des raisons, évidemment, de regretter bien des choses dans nos vies, mais regardons de l'avant. Le Seigneur nous aidera et il n'oublie pas ce qui est fait pour lui, si peu que ce soit. Je suis descendu au jardin des noisettes. Enfin, il est question des chars de mon peuple. Le char est conduit, est soumis à l'impulsion d'autrui, à la mention, l'introduction de la pensée de l'obéissance. Mais le Seigneur veut bien descendre au jardin des noisettes. Et la bien-aimée dira à l'égard des fruits qu'il désire, et qu'elle est si heureuse de lui donner au verset 13 de ce chapitre 7, il y a tous les à nos portes, il y a, ce n'est pas difficile, ils sont à nos portes. Il ne faut pas aller en Asie ou en Afrique pour porter du fruit pour le Seigneur. Si quelqu'un est appelé à le faire, évidemment, nous ne pouvons pas y trouver la moindre remarque à faire, mais ils sont à nos portes. Verset 13, il y a tous les fruits exquis. Si même apparemment, ce sont des noisettes, fruits qui ne sont pas importants, mais le Seigneur les apprécie. Tous les fruits exquis, dit-elle, nouveaux et anciens, la piété dans l'Ancien Testament. Je me suis choisi l'homme pieux, celui qui soutient des rapports de confiance et de crainte avec Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Paul ne parle pas d'autrement. Timothée, la piété est utile à toute chose. Des fruits exquis, nouveaux et anciens, la piété des hommes de Dieu de l'Ancien Testament, comme la piété du croyant aujourd'hui. Des fruits exquis, nouveaux et anciens, pour mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Elle n'est pas occupée d'elle-même, elle est occupée de lui. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Voilà la source pour porter du fruit. Aimer le Seigneur, penser à lui, voir le Seigneur, fixer les yeux sur lui, ne pas penser à nous-mêmes. Mon bien-aimé, ces fruits exquis, nouveaux et anciens, je les ai gardés pour toi.
Le dernier verset du Cantique des Cantiques, du chapitre 4. Mon bien-aimé vient dans son jardin et qu'il mange ses fruits exquis. Notre cœur, chers frères et sœurs, chers amis, notre cœur est le jardin du Seigneur. Les fruits qui sont produits dans notre cœur, pas ailleurs, ils apparaîtront extérieurement peut-être. Les fruits extérieurs peuvent être produits, mais l'essentiel, c'est d'abord savoir ce que nous sommes. Être, même si souvent Dieu est choisi à Paris, avant de paraître. Être avant de faire. Être pour Christ. Voilà le secret pour porter du fruit pour lui. Un fruit de valeur s'il est porté pour Christ, pour la gloire de Christ. C'est dans le jardin secret de mon cœur qu'il s'y trouve avec 4 des 12 parfums de l'Écriture auxquels s'ajoute la myrrhe, le souvenir de l'humiliation du Fils de Dieu sur la croix.
Le
un passage qui nous montre donc l'activité de l'esprit dans le croyant. C'est ce que le Seigneur dit dans l'Évangile selon Jean, tout d'abord au chapitre 14 et au verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Dans le chapitre 15 et au verset 26. Mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et dans le chapitre 16, au verset 13, mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera. Tout à l'heure, il a été dit, mais de quelle manière est-ce que nous pouvons savoir que nos pensées sont en accord avec ce que l'Écriture dit, que le Saint-Esprit opère en nous. Ici, nous avons l'enseignement le plus simple, le plus clair qui nous soit donné à cet égard, c'est en étant occupé de Christ. Et l'Esprit Saint lui-même nous occupe de Christ, de ce qu'il a fait, du témoignage qu'il rend et de la croix.
Dans le témoignage, justice et économie, la vérité d'abord, nous avons la justice et la vérité. La vérité dans le sens que nous voulons, c'est la vérité. Puis la lumière, qui manifeste tout, c'est la lumière. Mais qu'est-ce qu'elle veut manifester chez les enfants et lumière? D'abord la bonté, aussi la justice. C'est pas parce qu'on aime bien quelqu'un qu'on va faire quelque chose d'injuste avec un mot. Et puis la vérité, elle doit toujours.
La conclusion du fruit de l'esprit au verset 23 de mon chapitre, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. S'il y a le fruit de l'esprit, il n'y a pas besoin de loi. Ce sera produit, on en a dit une autre fois cet après-midi, une vie intérieure, l'esprit qui est
dans le royaume, il n'y a pas besoin de loi. La loi est complètement mise de côté. Il y a un fruit qui est produit par la vie, par l'Esprit de Dieu, et non pas imposé de l'extérieur. Alors si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ici, marcher n'est pas le même verbe qu'au verset 16. Marcher par l'Esprit, c'est le verbe habituel. Mais si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. Cela veut dire marcher à la fille. On a l'expression dans les Philippiens, de marcher au pas. Dans les Philippiens, l'apôtre dit, soyez tous ensemble mes imitateurs. Portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi, suivant le modèle que vous avez en nous. Et avant, il disait, nous tous donc qui sommes parfaits aux sentiments. Le sentiment donc de courir, d'oublier les choses qui sont derrière, de connaître le Christ. Si en quelque chose vous avez un autre sentiment, une autre manière de voir les choses, là aussi Dieu vous le révélera. Cependant, dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, marchons, c'est le même terme que nous avons dans notre verset, marchons à la fille dans le même sentier. Nous ne sommes pas tous au même niveau spirituel, mais nous marchons les uns derrière les autres vers le même but. Alors, en avançant dans le chemin, Dieu nous enseigne, Dieu nous forme, et nous sommes les progrès. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Christ est à la tête. L'apôtre marche à la suite de Christ. D'autres suivent l'apôtre. Soyez mes imitateurs. Et puis, nous marchons derrière, à la file, au pas, les uns derrière l'autre. Ça veut dire que nous ne sommes pas tous au même niveau, mais tous dans le même sentier. C'est un enseignement important. Parce que on aurait tendance à déprécier tel ou tel frère, tel ou tel sœur, où il n'a pas compris, où il n'a pas saisi, où elle ne se comporte pas comme il faudrait. Non, nous marchons dans le même sentier. Nous n'avons peut-être pas tous le même sentiment, c'est-à-dire l'orientation d'esprit, non pas les mêmes pensées, mais marchons dans le même sentier. Suivons ce chemin que le Seigneur a tracé, que l'apôtre a suivi, que ceux qui l'ont imité ont poursuivi. Marchons dans le même sentier. Alors ici, si nous vivons par l'Esprit, bien tous nous avons la vie de l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Nous suivons le même sentier. Alors ne soyons pas désireux de la gloire. La gloire cherche cette gloire à ce mérite, se faire la gloire. C'est pas cela. C'est humblement suivre ce sentier que le Seigneur a tracé en étant conscient. Il y a des frères, il y a des sœurs qui sont beaucoup plus spirituels que je ne suis, mais nous marchons quand même. À la file, au même pas, dans le même sentier, mais pas en même niveau.
Sans une version, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, c'est le Christ, donc que nous vivons par l'Esprit, ainsi, en conséquence, marchons aussi dans la puissance et la dépendance du Saint-Esprit.
Ce n'est pas mis en doute que nous marchons par l'Esprit, mais c'est comme souvent dans les Épîtres, puisque nous vivons par l'Esprit. Au verset 16, au verset 24, on a notre position au Christ. Ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. C'est notre position en Christ. Alors nous n'avons pas à acquérir cette position, mais à montrer ce que nous sommes. Que nous sommes en Christ, le montrer, le vivre, mais non pas l'acquérir. On va faire des efforts pour devenir saint, mais marcher comme il convient à des saints. C'est assez différent si on est âgé.
La puissance de la croix de Christ est ainsi dans ces lames-là appliquée à la chair, la partie tombée de notre être. Et au chapitre 6, au verset 14, cette même puissance de la croix est appliquée au monde, c'est au système dans lequel Dieu nous laisse encore pour être les témoins pour lui. Qui ne m'arrive pas à moi de me glorifier sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par laquelle le monde m'est crucifié et moi mon monde. Je crois que la croix de Christ est la fin de notre chair et la fin du monde. Même comme système. A noter d'ailleurs en passant, dans ce passage que nous avons, que nous avons fait référence cet après-midi, c'est que Christ appelle Satan pour la première fois après sa réjection, chef de ce monde. Chef de ce monde, bien, il n'a rien en moi. Le chef de ce monde est déjà jugé. Nous appartenons à un autre monde et à un autre chef. Nous sommes laissés sur la terre justement de manifester les caractères de celui à qui nous appartenait. Voilà le sens du scandale de la croix. Voilà pourquoi la parole de la croix est folie. Voilà pourquoi la croix ne peut pas être populaire. La mort du Christ ne peut pas l'être, puisqu'elle juge tout le système, elle juge tout ce qui faisait la gloire et la valeur de l'homme à ses propres yeux. L'évangile ne peut pas être populaire puisque ça renverse le système même du monde dans lequel il se trouve. Le prêché. Tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. C'est offert à tous, ça n'est de la part de ceux qui savent saisir cette vraie position par la foi. Tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement. La conséquence, c'est que nous serons incompris du monde comme le Seigneur a été incompris du monde. Mais inconnu mais bien connu. Je ne sais pas si nous aurons même dire cette pensée qui se trouve sur la tombe de M. Bardi. Inconnu mais bien connu. On est trop souvent trop connu du monde et pas assez vraiment connu de Christ.
On l'a fait remarquer, si nous vivons par l'esprit, c'est le cas étant que nous vivons par l'esprit. Donc on voit comment il n'y a pas de vie véritable sans le Saint-Esprit comme source et puissance de vie. C'est bien cela qui est indiqué là. Donc c'est l'expression de la vie dans sa manifestation suprême sur la terre. Ce à quoi tout homme peut atteindre par la foi en Christ. Si nous vivons par l'esprit. Lorsque je regarde à Christ sur la croix, je sais que j'ai le pardon de mes péchés. Lorsque je regarde à Christ assis à la droite de Dieu, je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce sont des certitudes. Le cas étant que nous vivons par l'esprit. Donc, nous avons là, on ne peut pas séparer la vie dans son expression suprême du Saint-Esprit. Alors, nous pouvons inviter ceux qui sont jeunes ici et poser la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous cru? Il n'y a pas de vie véritable sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Dans un homme, dans une femme, dans un enfant.
Nous recevons par la foi l'Esprit promis. Chapitre 3. Mais alors que l'esprit n'est pas libre d'agir et d'agir, il faut que cette vie que l'esprit a produite se développe. On est étonné alors de trouver le verset 26. Après tout ce beau fruit de l'esprit, ne soyons pas désireux de vaine gloire, nous provoquons les uns les autres en nous portant en vie les uns aux autres. C'est l'esprit du chasseur. On a dit qu'il y a dans la Bible les caractères du chasseur et les caractères du berger. Le Nimrod, c'est le premier nommé comme chasseur, grand chasseur dans l'éternel, il bâtit Babylone, la gloire du monde. Babylone qui va détruire Israël, chasseur. David était un berger. Il gardait les troupeaux de son père. Il est devenu un berger pour son peuple. Moïse a été un berger dans ses années à Madian. Et il a été comme un berger, bien sûr un conducteur, mais un berger de l'Espagne. Saül était un chasseur. Il me poursuit, tu me poursuis comme on poursuivait une perdrix sur les montagnes. Saül voulait absolument détruire la vie. Et c'est extraordinaire que l'apôtre Chapon lui a dit en vous provoquant les uns les autres, en vous portant envie les uns aux autres. Moi j'ai raison, tu n'as rien compris. Il faut défendre cette pensée. Ou alors il faut imposer telle ou telle manière d'être légalement. Combien on a besoin de faire attention? Pas avoir un esprit chasseur qui cherche une belle gloire, qui veut se faire valoir. Mais un esprit berger, alors qu'on a au début du chapitre 6, n'est-ce pas, qui est spirituel, redresser un tel homme dans un esprit de douceur,
porter les charges les uns des autres. Ça, c'est le père juif. Et dans le dernier verset du chapitre 5, c'est le chasseur. Et que le Seigneur nous donne de ne pas avoir l'esprit chasseur, mais l'esprit berger. Paix mes animaux, sois berger de mon troupeau, paix mes brebis, paissez le troupeau de Dieu, étant des modèles du troupeau, esprit berger.
Est-ce qu'on pourrait donner une explication du verset 15?
On dit que c'est la conséquence de l'esprit légaliste. On doit agir ainsi, si l'autre vient, d'agir autrement. On insiste sur son point de vue. Alors, vous vous moquez, vous vous dévorez l'un l'autre. Et de là sont venus bien des malheurs parmi nos frères, parmi les frères. Insister sur son point de vue, en arriver moralement à se mordre les uns les autres. Mon frère ancien avait assisté à une de ces malheureuses dissensions entre frères. Il disait un tel dit, je rejette complètement ce que vous venez de dire. Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ, ce n'est pas l'esprit de Dieu, peut-être qu'il y avait quelque chose d'ironique, mais enseignant avec douceur les opposants, dans Timothée. Mais si vous vous mordez l'un l'autre, et vous dévorez l'un l'autre en égard, vous ne soyez consumé l'un par l'autre. Et malheureusement, on l'a vécu dans l'histoire des frères. On n'en est pas fier. Et au contraire, on a veillé à ce que cela ne sorte pas de l'histoire.
Quand je consumais, il reste plus, hein. On me semblait que disparaître. Quelques sens.
Il y a un cas douloureux dans l'Ancien Testament. Un peu pour illustrer ce que nous venons d'entendre, dans le second chapitre du deuxième livre de Samuel. Il y a les hommes de Saül, les descendants de la famille de Saül. Et il y a en même temps les hommes, les serviteurs de David, mais conduits par un homme charnel, Joab. Nous lisons donc ce petit récit au verset 12 de ce chapitre 2. Et il se rencontre près du réservoir à Gabaon. Et Abner dit à Joab au verset 14 que les jeunes hommes se lèvent donc et jouent entre eux devant nous. Mais c'était un jeu, hélas, un jeu cruel. La chair se donnant libre carrière. Et ils vont se lever, et nous lisons verset 16, et chacun saisit son adversaire par la tête. Ce n'est pas un détail qui passe inaperçu. Chacun saisit son adversaire par la tête et passa son épée dans le flanc de son adversaire. Et le résultat, c'est que ils tombèrent tous ensemble. Chacun saisit son adversaire par la tête. Force à coup d'arguments, la bataille se développe, elle se s'amplifie, mais elle se termine par une défaite complète, générale. Chacun avait saisi son adversaire par la tête, mais ils sont tombés tous ensemble. Si vous vous mordez l'un l'autre, prenez garde, vous mordez, vous dévorez l'un l'autre, prenez garde dans le fait que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Aussi bien les hommes de David que les hommes de Saül sont tombés tous ensemble. Désireux de même gloire, on a un exemple bien saisissant dans le discours que David fait, que l'apôtre Paul fait aux anciens d'Éphèse lorsqu'il les fait venir à Milet. La marque principale, distinctive, par laquelle son apostolat et son service manifestaient, s'accréditaient. N'est-ce pas remarquable ce qu'il dit dans le verset 18 « Et quand ils furent venus, sa vie des anciens, donc il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous tout le temps. »
depuis le premier jour que je suis entré en Asie servant le Seigneur. Donc, Paul, imitant son maître, de faire appel aux anciens pour leur dire, vous savez de quelle manière je me suis conduit tout le temps. Vous pouvez observer quelle a été ma conduite depuis le premier jour. Et quelle est la marque distinctive de cette conduite? Je me suis conduit envers vous tout le temps depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité. Première marque de ce serviteur de Dieu, dont le service est si important, qui n'avait rien à attendre des douze, qui avait reçu un apostolat, son apostolat directement du Seigneur, mais la marque de ce service, cet apostolat, il s'assied à côté de son maître, à côté de celui qui a pris la dernière place. Je me suis conduit en toute humilité. Qu'il y ait en vous cette pensée qui a été dans le Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir ou comme une chose à maintenir à tout prix d'être égal à Dieu, mais a pris la dernière place dans son anéantissement, dans son abaissement. Je suis un esclave. Et Paul s'appellera esclave du Christ. Aucune vaine gloire. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un de l'autre, la gloire de l'homme, la vanité? Tout ce qui exalte l'homme, le Seigneur dira, et c'est pourquoi sans doute Théophile a dit, le très excellent Théophile a dit à Luc, désormais Luc, je ne consens plus à porter ce titre de très excellent, quand il a vu l'humilité de celui qui est descendu du ciel pour naître dans une étable, dans une crèche, et qu'il a lu que ce qui est haut estimé parmi les hommes, la gloire que les hommes recherchent, le Seigneur dit, c'est une abomination devant Dieu. Théophile, saisi par de telles déclarations et une telle manifestation de l'humilité dans la personne du Fils de Dieu, abandonne bien vite ce titre de plus excellent. De très excellent.
Dans l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11, au verset 29, nous lisons de la bouche du Seigneur lui-même, apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Dans le passage que nous avons déjà lu tout à l'heure, dans Éphésiens 5, où nous avons été exhortés à être remplis de l'Esprit, nous avons comme quatrième conséquence, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et dans ce même, cette même épître aux Éphésiens, au verset 20, cette même expression, apprenez de moi, mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus, c'est-à-dire en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt, selon les convoitises trompeuses, d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Vous avez appris le Christ.
Nous pouvons reprendre un exemple de Moïse qui a été cité tout à l'heure dans Nombre 12, au verset 3. Cet homme Moïse était très doux. La note nous dit humble. Et pour reciter à nouveau le passage qui a été évoqué en Philippiens 2, nous lirons au verset 3, que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire. Voilà cette gloire, cette vaine gloire que nous avons dans notre passage. Mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Chacun ne regarde en face à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Qu'il est donc en vous cette pensée.
Nous portons en vie les uns aux autres. Encore l'exemple de l'apôtre dans Acte 20 que nous avons déjà cité, il pourra dire, je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Autrement dit, je n'ai convoité aucune possession appartenant à autrui, ni l'argent ni l'or, ce qui appartient à autrui. Je ne l'ai pas envié, ne l'ai pas convoité, ni la robe de personne, autrement dit, la position de quelqu'un. Le vêtement, la robe, était l'élément distinctif d'une position sociale. Je n'ai pas convoité, je n'ai pas désiré, je n'ai pas porté envie ni au bien de quelqu'un, ni à la position sociale qu'il occupait.
Christ, le vrai berger d'Israël, a été l'exemple parfait de l'humilité. En Zacharie 11, nous voyons cette humilité se manifester, lorsque l'homme a estimé au pied d'un esclave, si cela est bon, à vos yeux, donnez-moi mon salaire, sinon, laissez. Voilà pourquoi Christ a su, en Ézéchiel 33, promettre s'occuper des brebis de son troupeau, le troupeau d'Israël. Si nous voulons être utiles dans les assemblées, nous avons à cœur, de la part du Seigneur Jésus, d'exercer un service si utile, si nécessaire de pasteur maintenant, n'exerçons pas ce service dans l'esprit du chasseur, comme le père Saint-André le disait. C'est tout à fait l'opposé de ce que Christ a fait. La raison pour laquelle il y a opposition en Zacharie 11 d'un côté et en Ézéchiel 30 partie l'autre, entre d'un côté Christ et de l'autre côté l'Antichrist, le pasteur de Béant. Celui que le peuple d'Israël, parce qu'Israël à ce moment-là sera un orgueilleux, acceptera comme venant de son propre nom, pour reprendre l'expression de l'ancien. Dans Ézéchiel, ceux qui avaient revêtu le manteau de pasteur, en fait, vivaient sur le troupeau, dérobaient le troupeau, le pillaient, oubliaient de soigner la blessée, oubliaient de soigner les ennemis. Eh bien, le Seigneur faisait différemment. Moi, je m'en occuperai. T'as perdu, l'égaré, la blessé, je les soignerai, je les ramènerai, je les guérirai.
Donc on lit ce dernier verset du chapitre 5 des Galates, de porter envie les uns aux autres. On pense un peu aux disciples. Quand le Seigneur leur parle de ses souffrances, il leur dit par exemple dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, il leur dit, le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, ayant été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. Alors il leur parle de ses souffrances et on pourrait penser que leur cœur allait être touché. Quelle est leur réaction dans la suite au verset 33 du chapitre 9? Ils raisonnaient entre eux pour savoir quel serait le plus grand. Un peu plus loin, le Seigneur va encore parler de ses souffrances. Il dit au chapitre 10, au verset 33, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations, ils se moqueront de lui, ils le fouetteront, cracheront contre lui, ils le feront mourir, il ressuscitera le troisième jour. On pourrait penser que le cœur des disciples allait être touché. Quelle est la suite? Jacques et Jean, fils de Zébédée, viennent à lui et demandent que l'un soit à sa droite et l'autre à sa gauche. Quand il va instituer la scène dans l'évangile selon Luc, alors qu'il leur parle ainsi de ses souffrances, aussitôt après, ils sont occupés de celui qui serait appelé le plus grand. Alors, quand on voit ce dernier verset de l'Épître aux Galates, combien cela doit nous avertir, parce qu'il y a dans notre cœur ce germe qui voudrait qu'on soit toujours avec cet esprit de chasseur pour être le premier avant les autres, pour écraser quelqu'un, pour être à la tête. Alors que si nous marchons sur les traces du Seigneur, comme ce passage de l'Épître aux Philippiens que nous avons lu tout à l'heure, alors nous le suivrons dans l'humilité et nous désirerons l'imiter. Alors nous désirerons l'imiter, eh bien, c'est en laissant l'Esprit agir en nous, en laissant l'Esprit former Christ en nous, en étant conduit par l'Esprit, en vivant par l'Esprit et en marchant par l'Esprit.
Dans la pensée, lorsqu'en Luc 22, la contestation s'élève parmi les disciples pour savoir lequel est le plus grand, nous avons dans la réponse même du Seigneur une double leçon. La
première partie de la réponse du Seigneur, eh bien moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà le modèle de l'humilité. Et peut-être la deuxième leçon est encore plus nécessaire pour nous. Le Seigneur ne le reproche même pas. Il s'est révélé dans sa propre présence. Que leur dit-il ? Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes tentations. Moi, je me serais emporté. C'était quand même trop insupportable de voir celui-là qui était au milieu d'eux comme celui qui sert, et d'avoir une telle conscience de la présence du Seigneur Jésus et de ce qui allait se préparer. Voilà ce qui peut-être nous juge encore plus. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans les tentations. C'est une bonté infinie. La condescendance que le Seigneur Jésus manifeste à l'égard de ceux-là, tout misérables qu'ils étaient, qui avaient quand même abandonné quelque chose pour leur maître, et qui avaient vécu à sa suite pendant 3 ans et demi. Savoir relever le bien que la grâce de lui a produit chez nos frères, c'est naturellement très difficile. N'est-ce pas le secret justement pour améliorer l'état de l'assemblée ?
Un mot encore sur ce passage de Marc 9 qui n'est pas étonné de l'impuissance des disciples. Le Seigneur leur a pourtant donné le mandat de chasser les démons, de guérir les malades. Ils ont reçu de la part du Seigneur un mandat formel leur attribuant ses facultés, ses capacités exceptionnelles. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, les disciples lui demandent « Pourquoi n'avons-nous chasser le démon ?» Ce n'est pas étonnant qu'ils ont été privés de la puissance que Dieu, que le Seigneur mettait à leur disposition. Ils avaient en effet disputé en chemin pour savoir qui serait le plus grand. Et en même temps, remplis de prétentions, interdisant à un autre qui ne les suivait pas d'accomplir des miracles. Nous le lui avons défendu, disent-ils, parce qu'il ne nous suit pas, parce qu'il ne nous suit pas et parce qu'il n'est pas avec nous. D'où la leçon que le Seigneur m'a donnée dans ce cas. Leur impuissance, en raison de ce qui anime leur cœur, un désir de grandeur, de supériorité les uns sur les autres, et d'autre part, la prétention religieuse de quelqu'un qui ne les suive pas eux, il lui ordonne de cesser son activité.
En conclusion, est-ce qu'il serait possible de nous donner en quelques mots, de nous rappeler les grands points que nous avons vus dans cette journée, pour qu'il n'en reste quelque chose qui puisse être pratique dans notre vie à partir de tout de suite.
Si nous abandonnons notre volonté à celle du Saint-Esprit, je dis bien si nous abandonnons notre volonté tout à fait volontairement à celle du Saint-Esprit, nous sommes soumis au Saint-Esprit, c'est un secret pour que individuellement nous portons du fruit, nous ne manifestions pas les œuvres de la chair. Mais c'est là où il y a tout le travail. Et c'est là certainement long, n'est-ce pas ? Très long, mais ceux qui sont plus âgés peuvent nous le dire bien mieux que nous qui sommes plus jeunes. Quand nous pensons que pour le Seigneur, il est mort sur la croix, 3 heures sombres, mais auparavant, il a eu toute une vie de renoncement. Et lorsque nous regardons à l'œuvre de Christ, nous, un seul regard de foi, nous délivre de la puissance du péché dans notre vie. Mais il faut certainement toute la vie pour réaliser ce renoncement de tous les jours, cet abandon de sa propre volonté à celle du Saint-Esprit, n'est-ce pas ?
Le premier verset du chapitre nous a donné le contraste entre la liberté et le joug de servitude. Nous avons vu cette liberté, libérée de la loi, affranchie du péché, asservie à Dieu, libérée de la loi pour être un autre, pour être au Seigneur. Mais alors, n'oubliez pas la liberté comme une occasion pour lâcher, verset 13. Occasion veut dire base d'opération.
une armée et une base d'opération. On choisirait la chair comme base d'opération. Eh bien non, cette liberté qui vous est donnée, c'est pour servir l'un l'autre, être esclave l'un de l'autre par amour. Mais alors, cette importance de l'amour par opposition au légalisme, développé dans le premier paragraphe, mais dans la suite aussi, la foi, l'amour et l'espérance. Sur le principe de foi, nous attendons l'espérance de la justice, de la gloire. La foi opère par l'amour, non pas par la crainte. Ne pas se laisser arrêter par ceux qui viennent avec des erreurs, mais savoir par la puissance de l'Esprit de Dieu, ôter le levain, soit dans mon cœur, soit dans une assemblée. Et alors marcher par l'Esprit, une puissance qui est en nous, pour ne pas pratiquer les choses que nous voudrions, que la chair souhaite, être conduit par l'Esprit, être délivré de ces œuvres de la chair qui sont très variées, nous ne sommes pas étendus à ce sujet, mais chacun doit les relire et se demander lesquelles de ces œuvres de la chair apparaissent le plus souvent chez lui. Et alors le fruit de l'Esprit, c'est le résultat d'une vie intérieure, produite et entretenue par l'Esprit de Dieu, mais aussi par la parole qui habite richement dans le cœur. Vivre par l'Esprit, c'est un fait, à genoux, marcher aussi, au pas les uns derrière les autres, si l'on peut dire, mais vers le monde, par l'Esprit. Alors, contraste entre l'Esprit et la chair, dans la seconde partie du chapitre, contraste entre la liberté, la délivrance, la puissance du péché, de la loi, et la servitude de celui qui veut s'astreindre à un légalisme pour s'acquérir des mérites. Et on sait bien sûr qu'on peut en écouter.
Thank you. cantique 119.
Yeah.